Bonsoir à tous et bonsoir aux auditeurs de Radio Espérance qui sont avec nous ce soir. Nous sommes donc dans la chapelle des Apparitions à Paray-le-Monial, là où Jésus révèle son cœur à Marguerite Marie. Et aujourd'hui nous fêtons Sainte Thérèse et j'aime bien rappeler comment à Montmartre, les deux saintes qui nous accueillent lorsque nous rentrons dans la basilique, c'est Sainte Marguerite Marie et Sainte Thérèse, ces deux sœurs qui nous aident à comprendre cet amour du cœur de Jésus, sa douceur, son humilité, et qui nous font rentrer dans cette intimité avec lui à des époques différentes. Je trouve que, excusez-moi l'expression qui me vient, mais Thérèse est comme une deuxième vague pour essayer de faire rentrer cet amour du cœur de Jésus dans le cœur des hommes. Après le témoignage à Sainte Marguerite Marie, eh bien, Sainte Thérèse nous aide à vraiment l'ancrer, nous a beaucoup aidé à entrer l'amour du cœur de Jésus dans notre cœur. Et donc rendons grâce à Dieu pour ces deux saintes. Ce soir, dans l'heure sainte, nous allons évoquer comme introduction aussi à ces rencontres de Paray, à cette retraite de ces premiers vendredis du mois, de ce soir jusqu'à dimanche matin. Eh bien, nous allons approfondir le thème sur l'apostolat des laïcs et à travers différentes œuvres qui ont été fondées autour du cœur de Jésus et les laïcs, nous allons approfondir ce thème. Nous sommes aussi dans ce dernier mois de l'année jubilaire. Une année jubilaire qui ne s'est pas forcément passée comme on l'avait prévu, mais avec beaucoup de fruits. J'aimerais d'abord dérouler un peu ce que nous avons vécu tout au long de cette année, avant de conclure dans deux semaines, avec les fêtes de Sainte Marguerite Marie. Pendant cette année, nous avons eu l'occasion d'approfondir le Sacré-Cœur dans l'Écriture, lors d'une retraite. Nous avons contemplé aussi comment, avant Sainte Marguerite Marie, il y a eu tous ces précurseurs de l'expérience de Marguerite Marie, les pères de l'Église, Saint Bernard, Gertrude, Mechtilde, puis aussi François de Sales, Jeanne de Chantal et Saint Jean-Eudes. Nous avons vu comment Marguerite Marie aussi était un point culminant dans cette première étape. Nous avons déployé sa vie, essayé d'approfondir un peu plus comment ce qu'elle a vécu. Eh bien, tout cela est un témoignage de l'amour du cœur de Jésus. D'ailleurs, pour les auditeurs de Radio Espérance, tout au long de ce mois, vous aurez chaque matin, et je suis ravi de chaque matin de vous retrouver pour une petite émission qui poursuit ce premier parcours qu'on a pu avoir au mois de juin, où nous approfondirons la mission de Marguerite Marie après ses vœux perpétuels. Et puis, nous avons pu contempler aussi particulièrement la mission des Jésuites. Nous aurions dû travailler le rapport du Sacré-Cœur et la France au mois de mai. On n'a pas pu faire ces rencontres puisque nous étions tous en confinement. Et en même temps, si on regarde bien, il y a eu beaucoup de choses autour du Sacré-Cœur et la France pendant cette année. Vous voyez, notamment cette grande prière à Montmartre au mois de juin l'année dernière. Et puis la consécration de Lyon et de Paris au cœur de Jésus, le renouvellement de la consécration de Marseille au cœur de Jésus. Donc le cœur de Jésus a été bien présent dans notre pays. On aurait dû déployer notamment à ces rencontres-ci le Sacré-Cœur et les autres confessions chrétiennes avec les orthodoxes, les protestants, comment ils voient le cœur de Jésus. On n'a pas pu le mettre en œuvre à cause du contexte actuel, mais nous aurons l'occasion, j'espère, de pouvoir approfondir plus largement ce temps-là. Alors nous concluons un peu dans ces grandes retraites qui nous ont aidés à approfondir ce message du cœur de Jésus depuis le cœur transpercé sur la croix jusqu'à aujourd'hui, eh bien avec l'apostolat des laïcs, avant de vivre les fêtes de Sainte Marguerite Marie et de voir la dimension missionnaire de Marguerite Marie. Si au XVIIIe et XIXe siècle, beaucoup de congrégations se sont rattachées au cœur de Jésus, soit dans la dimension apostolique, soit dans la dimension contemplative, eh bien, au XIXe et XXe siècle, des œuvres d'apostolat se sont déployées, et en les reprenant petit à petit pendant ces jours, on va essayer de voir, l'enjeu n'est pas non de s'engager dans une nouvelle œuvre, mais de voir comment il nous enseigne la manière de vivre, pour nous aussi laïcs au cœur du monde, cet appel à suivre le cœur de Jésus. Ce soir, j'aborderai le thème de l'heure sainte, hein, et de voir comment ça peut se déployer à travers deux axes, la prière de l'heure sainte en famille, et puis la prière de la place de l'adoration, et l'adoration perpétuelle. Demain, nous travaillerons plus le thème de la consécration au Sacré-Cœur, et l'après-midi, l'œuvre de la garde d'honneur. À travers ces deux points, nous serons plus concentrés sur Marie et Jean au pied de la croix. Et puis samedi, nous approfondirons l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, comment nous mettons le cœur de Jésus chez nous, et puis l'apostolat de la prière. pour voir aussi comment, à travers ces cinq œuvres différentes, comment nous renouveler nous-mêmes dans notre joie de suivre le cœur de Jésus, le Seigneur, et de l'aimer et de nous laisser aimer par lui. Alors Marguerite Marie, on peut dire, même si ses œuvres sont postérieures à Marguerite Marie, ces cinq œuvres, eh bien, on les retrouve dans la vie de Marguerite Marie. D'abord, Marguerite Marie a vécu leur sainte, hein, c'est elle qui reçoit cette demande de leur sainte. Elle va le vivre une fois que sa supérieure va se laisser toucher par cet appel. Et puis, Marguerite Marie va vivre cette consécration au cœur de Jésus. Pour ceux qui reçoivent la lettre des Amis du Sacré-Cœur, vous avez vu au début de ce mois une prière de Marguerite Marie où elle dit « Par l'entremise de ma Sainte Mère, aux mille et mille fois je vous donne mon cœur. Par Notre-Dame, la très Sainte Vierge. » Le problème c'est que je ne la connais qu'en chantant, alors j'ose pas, je suis un peu timide devant vous, mais je vais vous le faire quand même. « Par l'entremise de ma bonne mère, aux mille et mille fois, je vous donne mon cœur. Par Notre-Dame, la très sainte Vierge, au très sacré divin et adorable cœur de Jésus, je me donne et me consacre à vous sans réserve. » Voilà, je me donne au très sacré, doux et humble cœur de Jésus, je me donne et me consacre à vous sans réserve. C'est beau parce qu'on retrouve cette expression chère à Saint-Claude de la Colombière, sans réserve. Donc par la Vierge Marie, que nous honorons particulièrement dans ce mois d'octobre, ce mois du rosaire, eh bien Marguerite Marie se donne au Seigneur, se consacre à lui sans réserve. Et puis Marguerite Marie, dans ses avis à ses frères, à ses sœurs, pardon, et dans son accompagnement, elle invitera souvent à se tenir spirituellement au pied de la croix, comme dans cette heure de présence de la garde, que la garde d'honneur va déployer. L'intronisation au Sacré-Cœur, elle peut être manifestée particulièrement par la place de l'image que Marguerite Marie invite à déployer dans toutes les communautés, très largement. Et puis l'apostolat de la prière, c'est toute la vocation de l'intercession. Nous retrouvons dans cette vie de Marguerite Marie cette compréhension, cet appel à intercéder, non seulement pour les âmes souffrantes, ses amies souffrantes, les âmes du purgatoire, mais aussi dans la communion avec le pape, pour toute l'Église, jusque pour le roi de France et pour d'autres situations très concrètes de la vie quotidienne. Alors Marguerite Marie a vécu ces cinq étapes-là, elle était religieuse. Comment chacun d'entre nous, comme laïcs, on va pouvoir aussi déployer ces thèmes-là ou replonger? Si on a eu l'occasion déjà de vivre ces différents temps, on a pu mettre le Sacré-Cœur dans notre maison, on a pu se consacrer au cœur de Jésus, eh bien revenir, se renouveler dans cette démarche, dans cette vie quotidienne. Alors ce soir, avec l'heure sainte, eh bien j'aimerais approfondir deux thèmes. Le premier, c'est l'heure sainte comme l'occasion de la prière familiale. Je l'évoquerai assez brièvement, la prière chez soi, puisque Marguerite Marie, dans l'appel de l'heure sainte, reçoit cet appel à prier au pied de son lit. Et peut-être que la prière chez soi n'est pas un acte si simple à faire. Et donc, revenir un peu sur quelques conseils que Marguerite Marie nous donne sur la prière chez soi. Et puis, sur l'adoration eucharistique. Alors, j'extrapole, hein, parce que Jésus ne demande pas de faire l'heure sainte devant le Saint-Sacrement. Même si nous avons la grâce de le faire devant le Saint-Sacrement, Jésus le demande de le faire chez soi. Et en même temps, c'est une grâce qui nous est donnée. Et vu l'insistance sur la place de l'Eucharistie, sur l'appel à veiller une heure avec lui, eh bien, j'aimerais ce soir reprendre cette contemplation un peu de l'adoration, et particulièrement de l'adoration perpétuelle, dans tous ces lieux où le Saint-Sacrement est exposé, où nous sommes invités aussi à y participer, à nous joindre à la prière de l'Église, en donnant, en veillant une heure avec Jésus, qui peut être l'occasion d'ailleurs, cette heure que régulièrement nous donnons chaque semaine, eh bien une heure que nous pouvons vivre un peu comme une heure sainte, justement, même si ce n'est pas le jeudi soir entre 11h et minuit. Alors peut-être que certains sont nouveaux parmi nous, et donc je voudrais d'abord réintroduire très rapidement, parce que les habitués vont dire « mais nous on connaît par cœur mon Père », mais cette prière de l'heure sainte. Alors la prière de l'heure sainte que Marguerite Marie reçoit lors de la deuxième apparition, Jésus lui demande à Marguerite Marie, qui veut lui rendre amour pour amour, trois choses, trois actions, trois dévotions, si l'on veut, pour suppléer à l'ingratitude des hommes face à l'amour de son cœur. Jésus aime les hommes et il n'en reçoit en retour que des ingratitudes. Marguerite Marie veut lui rendre amour pour amour et Jésus lui propose, premièrement, de communier autant que l'obéissance lui permet. Deuxièmement, la communion réparatrice du premier vendredi du mois que nous vivrons demain, ici même à 11h. Et puis, la prière de l'heure sainte. Est-ce que chaque jeudi soir, entre 11h et minuit, tu peux te lever de ton lit et te prosterner au pied de ton lit? Et là, je te ferai participer à cette mortelle tristesse vécue au Jardin des Oliviers. Donc c'est un appel à accompagner Jésus qui vit une agonie au Jardin des Oliviers. Est-ce que toi, Marguerite Marie, qui veux me rendre amour pour amour, tu veux bien vivre et veiller une heure avec moi le jeudi soir? Eh bien, de même que le vendredi, on fait mémoire de la passion du Seigneur, ou le dimanche, on rappelle sa résurrection, le jeudi, qui est le jour qui peut nous faire contempler l'Eucharistie et le sacerdoce, eh bien, le jeudi soir nous fait entrer aussi dans cette agonie de Jésus qui rentre dans sa passion. Jésus dira à Marguerite Marie, « C'est ici que j'ai plus souffert intérieurement qu'en tout le reste de ma passion, me voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre, chargé de tous les péchés des hommes. » Donc pour Jésus, dans ses révélations à Marguerite Marie, c'est l'endroit où j'ai le plus souffert. Et donc Jésus demande à Marguerite Marie de l'accompagner dans cette heure douloureuse pour lui, dans deux aspects. D'abord, être là à la place des apôtres qui l'ont abandonné ou qui dorment. Pierre, Jacques et Jean dorment. Est-ce que nous nous tenons, nous aussi, près du Seigneur pour être avec lui, tout simplement être là? Deuxièmement, il l'invite à intercéder pour les pécheurs, demander miséricorde pour les pécheurs. Et derrière ce thème, il y a tout le déploiement à travers les siècles de ce qu'est la réparation. Marguerite Marie est invitée à s'associer, à agir, pas seulement, d'une certaine manière, recevoir les grâces du salut, mais rentrer dans cette vocation d'intercéder pour les pécheurs. Et cette vocation, nous sommes invités à y rentrer largement. Alors à travers les siècles, il y aura des variantes dans plein de dévotions différentes. Vous allez à Fatima, vous verrez la manière de vivre cette dévotion de la réparation. Vous allez à Cracovie, vous aurez le chapelet de la miséricorde. Plusieurs dévotions à Paray-le-Monial, le lieu particulier de la réparation, c'est cette prière de l'heure sainte. Donc d'être avec Jésus dans cette offrande pour lui, de demeurer avec le Seigneur. Alors ce premier point, à retenir peut-être tout simplement de cette heure sainte, c'est cette attitude fondamentale qui est, mais pas si naturelle que ça, qui est d'être là pour Jésus. Voilà, Marguerite Marie, on l'entendra souvent dans cette expression « rendre amour pour amour », elle veut être là pour Jésus. Mais nous, on est souvent dans l'attitude d'être là un peu, enfin, que Jésus soit un peu là pour nous quand même. Vous voyez, on vient vivre une retraite aussi pour, on attend des grâces du Seigneur. On peut être souvent dans une dimension descendante, on attend la grâce de Dieu. Or là, cette logique de l'heure sainte et la logique de la réparation, c'est d'être là pour Jésus. Seigneur, je suis là pour toi. Comme je le dis régulièrement aux pèlerins, un pèlerin lui-même m'avait dit « Ah, j'aime bien l'heure sainte parce que c'est une heure où je ne demande rien à Jésus, je suis là pour lui. Voilà, je suis là comme un ami qui aime le Seigneur, qui demeure avec lui. » Alors, comment cette heure sainte, nous pouvons la déployer dans notre vie quotidienne? Demeurer avec Jésus dans la sobriété d'une heure de prière. On peut dire que c'est assez aride de revenir chaque jeudi soir sur l'agonie. Vous voyez, c'est quand même pas si simple de revenir à ce mystère compliqué, ce mystère douloureux, le plus douloureux, nous dit Jésus. Et justement, d'entrer dans cette logique d'être là pour Jésus. Et deuxième aridité, c'est cette régularité dans la prière. Comment j'arrive à poser ce moment régulier avec le Seigneur, cette rencontre avec lui? Donc, cette demande de Jésus peut nous interroger et nous interroger dans notre prière personnelle, dans la manière dont je vis ma prière personnelle, dans la gratuité aussi de ma prière. Comment je rentre dans cette gratuité pour le Seigneur? Et le cœur de Jésus, autre interrogation, c'est comment mon action, au fond, peut consoler le cœur de Jésus. Comment ma prière, ma simple présence, le fait de veiller une heure avec Jésus, eh bien, rentre dans ce grand mystère de la consolation de Jésus, de suppléer aux ingratitudes des hommes. Pour le Père Matteo, nous l'approfondirons davantage samedi matin avec l'intronisation du Sacré-Cœur, Et le père Matteo a pu déployer toute cette logique de l'heure sainte en voyant comment chacun chez soi, on peut prendre ce temps, alors d'une certaine manière, nous aider davantage que la simple aridité de s'allonger au pied de son lit. Il invite les familles notamment à se rassembler autour d'une image qui rappelle le cœur de Jésus et à se relayer devant cette image dans sa maison, en famille, de prendre ce temps gratuit pour le Seigneur. Et il invite les enfants, puis les plus petits aux plus grands, à pouvoir se relayer un temps régulièrement. Voilà comment nous déployons ce temps pour le Seigneur. Moi, je me suis permis de compléter cet appel, vous le savez, en précisant peut-être que nous pourrions donner une minute par âge, par année écoulée dans notre vie. Vous avez 10 ans, vous donnez 10 minutes. Vous avez 60 ans, vous donnez 60 minutes. Vous avez 80 ans, vous avez 90 ans, vous avez peur. Et là, on reprend le concept du carême. Après 60, on est exempté, non pas de prier, mais peut-être on reste à 60. Donc on veille une heure, avec Jésus. N'ayez pas peur si les années avancent. Mais c'est l'occasion peut-être simplement justement d'être dans la gratitude. Seigneur, je te redonne la gratitude pour ces années écoulées, cette vie que tu m'as donnée. Voilà, tout est don reçu de toi et je te l'offre de nouveau. Et puis simplement d'être avec lui. Voilà. Alors pour vivre ce temps de prière à la maison, je vous propose de reprendre quelques étapes de la prière d'oraison que Sainte Marguerite Marie proposait lorsqu'elle vivait déjà à Vérove, donc comme enfant, avant qu'elle rentre au monastère. Elle dit qu'elle est poussée à la prière et en même temps elle ne sait pas du tout comment faire. Alors peut-être que nous sommes dans la même situation, on a envie de prier, on a envie de prendre ce temps à la maison et en même temps on ne sait pas très bien comment y arriver. Alors je pense particulièrement aux auditeurs de Radio Espérance et tous ceux qui ne peuvent pas forcément beaucoup sortir de chez eux parce qu'ils sont malades ou handicapés ou d'autres raisons et qui en font aujourd'hui n'ont plus la capacité de rejoindre une église pour prier devant le Saint-Sacrement qui est une grâce très particulière et chère à notre cœur. Alors Marguerite Marie écrit cela dans son autobiographie au numéro 12. Je me sentais si fortement attiré à l'oraison que cela me faisait beaucoup souffrir de ne savoir ni pouvoir apprendre comment il fallait le faire. N'ayant aucune conversation des personnes spirituelles, en gros il n'y a personne qui peut la conduire, et je ne savais autre chose que ce mot d'oraison, et ce mot ravissait mon cœur. Je m'adresse directement à mon maître, à Jésus, et qui m'apprend comment il voulait que je la fisse, ce qui me servit toute ma vie. Alors si ça lui a servi toute sa vie, ça peut peut-être aussi nous servir. Elle dit, premièrement, il me faisait prosterner humblement devant lui pour lui demander pardon de tout en quoi je l'avais offensé. Alors, vous voyez, certains me diront, mais mon père, mais moi, ça y est, je peux déjà plus me prosterner devant le Seigneur, c'est fini, ça, moi, j'ai des genoux qui n'avancent plus, là. Alors, comment on peut vivre cette prosternation? Seigneur, en fait, c'est cette mise en présence, hein. Je me mets en présence de Dieu, le Seigneur est là, il est avec toi dans le secret, quand tu pries, ton père est là dans le secret, et donc je viens et je me mets face à Dieu. Et il y a cette invitation à demander, elle dit ça, je demande pardon de tout en quoi je l'avais offensé. Ça reprend le mouvement de la messe. Nous commençons la messe en remettant à la miséricorde de Dieu nos fautes qui nous aident à accueillir davantage sa présence. Deuxième étape, après se prosterner humblement, cette attitude humble que l'on retrouve notamment quand Marie accueille l'ange Gabriel chez elle, elle dit, et puis après l'avoir adoré, voilà, je peux faire cet acte d'adoration même si je ne suis pas devant le Saint-Sacrement, nous sommes invités à adorer en esprit et en vérité. Jésus dit à la Samaritaine, le temps vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité, pas seulement sur cette montagne ou sur cette autre, pas seulement à la basilique ou à la chapelle des apparitions, tous m'adoreront en esprit et en vérité. Et pas forcément d'endroit d'abord. Voilà. L'Église n'est pas le seul endroit où je suis invité à adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est un changement de conception pour nous. Et justement, comment nos temps d'adoration eucharistique nous sont là pour nous aider à adorer tout le reste de la journée. Troisième étape, je lui offrais mon oraison sans savoir comment il m'y fallait prendre. Donc Seigneur, je suis là, je me remets devant toi, je te demande pardon pour mes péchés, tout ce qui a pu m'offenser. On n'est pas obligé d'être général, on peut être très précis. Hein. Je te remets Seigneur ce point-là, cette discussion-là, qui peut habiter mon cœur et qui fait que j'ai du mal à rentrer dans la prière aussi, qui peut être un obstacle à cette rencontre. Je t'adore, je prends conscience de ta présence, de ta divinité, toi qui es Dieu, qui a créé toutes choses, qui m'a sauvé, je t'adore. Et Seigneur, je t'offre ce temps que je prends avec toi. tout simplement, je t'offre ma prière, je ne sais pas trop moi non plus comment ça va se passer, si ça va bien se passer ou pas, mais je te l'offre. Quatrième étape, Marguerite Marie dit, il se présentait lui-même à moi dans le mystère où il voulait que je le considérasse. Donc, elle a de la chance, mais à l'époque, elle n'avait peut-être pas l'évangile non plus dans sa poche. Comme enfant, au milieu du XVIIe siècle, alors Jésus y donne ce mystère, voilà, de la transfiguration, de la résurrection, de la multiplication des pains, cette rencontre, ce discours sur la montagne ou d'autres moments, et elle contemple Jésus dans cette attitude-là. Alors pour nous ce soir, eh bien, nous contemplons Jésus, ou on peut le faire chez soi, au pied de son lit, eh bien, le mystère de l'agonie. Mais dans cette prière, eh bien, je prends un mystère de l'évangile. Si nous avons des évangiles maintenant, eh bien, nous pouvons prendre un petit paragraphe. Et si d'ailleurs nous pouvons faire une lecture continue et prendre paragraphe par paragraphe pour contempler ce mystère. Donc je laisse Jésus se présenter à moi dans ce mystère. Pour ceux qui connaissent Saint Ignace, eh bien, ce mystère-là, il nous invite vraiment à rentrer dans cette attitude assez fréquemment. Je me plonge dans ce mystère, et un exercice que nous propose Ignace, c'est de vous mettre comme un membre de cette action. Par exemple, vous contemplez la pêche miraculeuse, eh bien, vous allez vous mettre soit dans la barque, soit vous mettez à la place de Pierre, soit à la place d'un autre apôtre dans la barque. Vous regardez Jésus sur le rivage qui vous demande de jeter les filets, soit vous mettez dans la foule à côté de Jésus et puis vous regardez ce qui se passe, comment les personnages réagissent, et puis vous laissez saisir par ce qui se passe. C'est un mode de prière, qui nous est proposé. Marguerite Marie continue. Il appliquait si fort mon esprit en tenant mon âme et toutes mes puissances englouties dans lui-même que je ne sentais point de distraction. Action de grâce, Marguerite Marie n'a pas de distraction quand elle prie. Si vous en avez, eh bien, revenez humblement à la prière devant le Seigneur. Mais mon cœur se sentait consommé du désir de l'aimer. Voilà la pointe de la prière. Je l'ai déjà dit, Marguerite Marie, sa pointe, l'enjeu de la prière n'est pas d'abord ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. L'enjeu de la prière, c'est que mon cœur se sent consommé du désir d'aimer Jésus. Si vous avez passé votre heure à aimer Jésus, vous avez réussi votre prière, même si quand vous sortez, vous dites, je ne sais plus de quoi, sur quel texte j'ai prié. Voyez, et c'est difficile ça aussi pour nous, parce qu'on veut optimiser notre temps. Seigneur, je t'ai donné ce temps de prière, il faut quand même que je ressors grandi dans l'intelligence, dans des connaissances. Ben non, ce n'est pas l'enjeu premier. L'enjeu premier, c'est d'aimer, ou du désir d'aimer le Seigneur. Voilà cette logique dans laquelle Marguerite Marie va se rendre, et ça va s'accomplir dans l'action. Après, elle dit, le fruit de cette prière, c'est est-ce que je peux communier, est-ce que je peux m'offrir, souffrir pour le Seigneur, l'imiter en fait. Est-ce que j'aimerais imiter Jésus? Mais elle ne savait comment faire. Alors Marguerite Marie conclut un peu sur le contexte en disant, j'avais pas de temps que celui de la nuit, et j'en prenais ce que je pouvais. Et quoique cette occupation me fût plus délicieuse que je ne le peux exprimer, je ne le prenais pas pour une oraison et me sentais continuellement persécuté de la faire, lui promettant qu'aussitôt qu'il me l'aurait appris, j'y emploierais tout le temps que je pourrais. Voilà, elle nous donne une méthode de prière et en même temps, elle n'est jamais dit, mais est-ce que je prie bien? Est-ce que c'est vraiment la bonne manière de le faire? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est ce que Dieu veut vraiment? Ah, je ne suis pas toujours satisfait de ma prière. Peut-être que vous n'êtes pas très satisfait de votre prière quand vous en sortez. Marguerite Marie n'est pas complètement. Elle n'est pas rassurée, en fait. Seigneur, je t'offre ce temps-là, voilà ce que j'ai pu vivre. Et puis ce contexte, pour elle, c'est la nuit qu'elle peut prier. Certains d'entre vous, vous ne dormez plus la nuit et vous passez vos nuits à dire « Oh là là, il faudrait que je dorme, je n'arrive pas à dormir » et tout ça. Peut-être qu'on peut vivre plus paisiblement les choses en disant « Bon, je dormirai demain matin et là, je vais prier. » Je vous avoue que pour ceux qui travaillent, c'est une option difficile à gérer. Mais pour ceux qui ont la capacité de ne pas être stressés par le travail du lendemain, vous pouvez simplement vous redire cela. Écoute, Seigneur, tu me donnes en ce moment les insomnies. Je ferai la sieste l'après-midi et la nuit, je vais prier. Cette puissance de la prière de la nuit est bien à méditer, notamment dans cette logique de l'heure sainte et de la réparation. Vous voyez, combien de fois nous sommes invités à prier la nuit? Pensez au lever de nuit des Chartreux qui se lèvent. Chaque nuit, ils ont un lever de nuit pour prier pour le monde de la nuit, pour prier pour l'Église, pour prier pour le monde, pour demander à ce que la lumière jaillisse dans les ténèbres. Et donc peut-être que nous, comme laïcs, nous ne sommes pas religieux, nous ne sommes pas religieuses, nous sommes invités à cette vocation de la prière de par notre baptême, nous sommes prêtres par notre baptême, et nous rentrons dans cette vocation aussi d'intercession, d'offrande, de prière. Ça va? Très bien. Alors je passe au deuxième point. Peut-être pour conclure sur cette partie de la prière chez soi, j'aimerais vous rappeler comment Marguerite Marie, aussi comme enfant, aimait aller prier dans la grange. Elle se réfugiait dans la grange, dans le domaine familial, pour aller là-bas y méditer sur la passion de Jésus. Vous voyez là, on vit l'heure sainte. Et comment on peut aller prendre le temps de méditer sur la passion. Méditer sur la passion l'aidait à vivre eh bien, toutes les épreuves qu'elle vivait dans son quotidien. Elle aura cette très belle prière à Jésus. « Ô Seigneur, imprimez en moi votre image souffrante. » Imprimez en moi votre image souffrante, ça veut dire « Aidez-moi à comprendre, premièrement, ce que vous avez vécu dans la passion, que je puisse me laisser saisir ce qu'elle vivra ici, dans le monastère, au bosquet des Noisetiers. » Elle comprit ce que Jésus endura dans sa passion. Jésus va l'exaucer dans cette prière-là. Mais c'est aussi, pas à pas, d'être dans les souffrances que nous portons, comme elle, dans sa vie familiale compliquée. Eh bien, Seigneur, imprimez en moi votre image souffrante, que je puisse vivre comme vous les souffrances que je peux vivre au quotidien. Voilà. Prenons un exemple. Donnez-moi, Seigneur, la grâce de ne pas trop râler lorsque je porte une croix, mais plutôt d'être silencieux comme vous lorsque vous portez la croix. Alors je voudrais prendre le temps d'évoquer quand même avec vous, et ce qui est beau dans l'autobiographie de Marguerite Marie, c'est que le thème de l'adoration et du Saint-Sacrement est juste après ce thème de l'adoration, de la prière pardon, et de l'oraison. Elle évoque au numéro 12 de l'autobiographie l'oraison, et au numéro suivant, elle parle largement de sa joie et de son désir du Saint-Sacrement, d'être près du Saint-Sacrement. Et vous savez que dans le message de Parlemonial, cet appel est essentiel, puisque les apparitions ont lieu près du Saint-Sacrement et que tout le message du cœur de Jésus est lié au corps du Christ livré pour nous. Voilà ce que dit Marguerite Marie dans le numéro 13 de son autobiographie. « Sa bonté me tenait si fort dans l'occupation que je viens de dire qu'elle me dégoûta des prières vocales. » Marguerite Marie ne sait pas comment prier avec son chapelet, avec ses prières qu'il faut répéter. Lesquelles je ne pouvais faire devant le Saint-Sacrement, où je me sentais tellement tout appliqué que jamais je ne m'y ennuyais. Et j'y aurais passé des jours et des nuits entières sans boire ni manger et sans savoir ce que je faisais, sinon de me consommer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. » Elle est encore enfant, hein. Elle écrit ça comme jeune, hein, pas comme religieuse. Hein. Donc dans sa vocation d'enfant, de jeune, je voudrais me consommer devant le Saint-Sacrement nuit et jour. Je ne pouvais demeurer en bas de l'église et quelques confusions que j'en sentisse dans moi-même, je ne laissais de me mettre tout le plus proche que je pouvais du très saint sacrement. Alors aujourd'hui, avec les distanciations, vous ne forcez pas à venir tous devant le saint sacrement. Voilà, même si vous n'êtes pas collés les uns les autres contre le saint sacrement, ce n'est pas grave. Vous dites, Seigneur, j'aimerais être le plus proche, mais voilà, je suis déjà dans la chapelle, j'ai déjà une grâce spéciale. Et si je suis dans ma chambre, eh bien, je peux aussi tourner mon cœur vers ici. Je n'estimais heureuse et ne portais envie qu'à celle qui pouvait communier souvent et qui avait la liberté de pouvoir demeurer devant le très saint sacrement, bien qu'il soit vrai que j'y employais très mal mon temps et que je crois que je ne faisais que le déshonorer. Frères et sœurs, à travers cette introduction de Marguerite Marie sur le saint sacrement, je vous lance juste une question. Hein. Quel est votre désir du saint sacrement? J'étais très touché pendant le temps du confinement hein, d'entendre tous ces désirs de chacun d'entre vous qui dit oh, « Quand est-ce que je retrouverai la messe? Quand est-ce que je pourrai adorer? Quand est-ce qu'on pourra reprendre cela ?» Et bien maintenant que nous sommes sortis du confinement, comment nous replongeons là-dedans? Comment et même si nous ne sentons pas forcément un sentiment de vouloir y aller, comment nous nous rappelons aussi le manque que nous avons enduré qui peut nous dire oh, « Seigneur, j'y aspire. » Et ceux qui aspirent jusqu'à dire « Oh là là, les sœurs, elles ont trop de chance, elles peuvent adorer tous les jours, elles peuvent communier tous les jours », bien, peut-être que le Seigneur vous appelle à les rejoindre. Hein. Ça fait partie des possibles. Hein. En cette fête, en ce centenaire, on peut demander cette grâce que de nombreux hommes et femmes, enfin surtout des femmes d'ailleurs pour la visitation, c'est mieux, eh bien, comprennent l'appel à demeurer, la joie d'être avec le Seigneur et de pouvoir donner leur vie aussi dans cette vocation qui n'est pas juste de réception mais qui est de don de leur vie pour le monde, pour l'Église. Alors, Marguerite Marie poursuit cela, et donc voilà, donc cette joie de pouvoir, et elle va donner l'exemple ou une nuit de Noël parce qu'elle n'arrivait pas à dormir, elle n'a pas pu communier. Elle dit, ah là, mon seul désir, c'était de communier. Et la joie de Noël, où j'aurais dû recevoir l'Eucharistie le lendemain matin, est devenue une terreur parce que à l'époque, il fallait pouvoir dormir entre la messe du soir et la messe du matin pour communier. Pour pouvoir communier, on était à jeun depuis minuit jusqu'à la messe suivante. Et l'exigence était de dormir. Et comme elle n'arrive pas à dormir, elle dit, je n'ai pas réussi à dormir, et donc je n'ai pas pu communier, et donc la fête de Noël est devenue un drame. Donc voilà, ce désir de communion qui s'exprime. Alors, à travers cela, reprendre un peu le thème de l'adoration, et quelle est la caractéristique de l'adoration, ou de l'heure de prière, dans l'heure sainte, la manière de vivre l'heure sainte, c'est la grâce du silence. En fait, je dirais l'heure sainte que l'on vit est très animée, mais il y a comme un silence intérieur dans l'agonie. Vous voyez, le silence, comme je vous le dis, ce n'est pas le lieu pour recevoir, mais pour se donner et s'offrir. Et Marguerite Marie a, dans ses avis, au numéro, le 56e avis, elle contemple diverses vies de notre Seigneur au Saint-Sacrement, et elle nous invite à offrir, elle dit à ses sœurs, vous garderez une demi-heure de silence pour honorer le cœur de Jésus. Et elle contemple le cœur de Jésus dans différentes situations. Vous allez honorer la vie de gloire du Saint-Sacrement et vous allez prendre une demi-heure de silence pour honorer Jésus, Christ, en croix, notamment silencieux sur la croix. Vous honorerez la vie cachée de Jésus au Saint-Sacrement, Jésus qui n'apparaît pas, qui se tient caché, et vous donnerez une demi-heure de silence pour honorer le silence de Jésus devant Pilate. Jésus qui ne répond pas devant Pilate. Vous méditerez sur la vie sacrifiée de Jésus et vous donnerez une demi-heure de silence pour honorer Jésus devant Hérode. Le silence de Jésus devant Hérode. Voilà, Jésus devant Hérode, dit saint Luc, ne lève même pas le regard, il n'a pas une parole. Alors, voyez, si notre vie de prière est des fois silence, eh bien, comment j'offre et j'honore, je prends conscience peut-être dans ma vie vie de prière qui peut être un peu même desséchante à certains moments, eh bien je suis devant le Seigneur et je dis, Seigneur, je t'offre ça et je t'honore dans ce silence, pour tous les silences que tu peux avoir devant Hérode, en croix, devant Pilate, ou comme dit Marguerite Marie, le silence de Jésus en l'étable de Bethléem, ou le silence du Christ parmi les injures qu'on lui fit pendant la Passion. Et elle va déployer une de ses caractéristiques, justement pour honorer le Seigneur au Jardin des Oliviers. Et on nous dit, Jésus se taisait dans ce moment-là. Et bien de rentrer dans cette vie quotidienne et de pouvoir rappeler, Jésus, tu étais silencieux. Jésus, tu demeurais silencieux dans cette agonie que tu vivais. Alors Seigneur, je veux t'honorer dans ce silence que je peux vivre, soit un silence qui s'impose à moi, soit parce que je choisis de rentrer dans cette heure sainte, non pour recevoir des choses, mais pour être avec toi, et je rentre dans cette vocation du silence. Elle poursuit, eh bien nous serons comme la Sulamite, l'épouse bien-aimée qui va honorer la vie d'amour de Jésus-Christ, et je prendrai une demi-heure de silence pour honorer le silence de Jésus au désert. Voilà. Comment, frères et sœurs, dans les silences que nous vivons, encore une fois, nous pouvons remettre devant le Seigneur pour vivre ce silence. Alors, Marguerite Marie a un grand désir de l'Eucharistie. La manière de vivre cette Eucharistie, cette adoration particulièrement dans l'heure sainte, c'est dans le silence. Et troisième élément que je voulais vous donner dans cette place de l'Eucharistie, c'était de vous redonner un texte que j'ai peu cité depuis que je suis recteur, mais qui est un texte pourtant fondamental, qui est dans la lettre 133 au Père Croiset. C'est d'entendre le désir de Jésus que nous soyons devant le Saint-Sacrement. J'ai soif, mais d'une soif si ardente, d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume, et je ne trouve personne qui s'efforce, selon mon désir, pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. C'est très beau parce que Jésus reprend le désir même de Marguerite Marie de rendre amour pour amour, et lui dit, bien, il n'y a personne qui désaltère ma soif en me rendant quelques retours d'amour. Et donc, est-ce que toi, Marguerite Marie, on est vraiment dans la logique de l'heure sainte, tu veux bien me rendre quelques retours d'amour en vivant cette heure sainte? Alors, pour appliquer cela, je vous propose quelques petites considérations sur l'adoration perpétuelle. Voilà, le Seigneur nous donne la grâce, particulièrement à Paray-le-Monial, d'avoir la chapelle Saint-Jean. Ici, à Paray, Jésus nous invite à être les disciples bien-aimés de son cœur. Il nous donne ce lieu de l'adoration perpétuelle où ensemble, paroisse et sanctuaire, eh bien, avec tous les parodiens, on essaye de tenir cette adoration perpétuelle. Grâce du Saint-Sacrement, grâce de l'adoration qui a pu se déployer, hein, bien, pas seulement avec Marguerite Marie, on connaît Saint-Pierre, Julien et Marc, et de nombreux auteurs, Saint Thomas d'Aquin et d'autres auteurs, vont nous aider à rentrer dans ce mystère eucharistique. Dans l'adoration perpétuelle, eh bien, notre mission, c'est de veiller une heure avec Jésus, donc le thème que Jésus propose à l'heure sainte. Et c'est peut-être pas possible de vivre une heure d'adoration le jeudi soir entre 11h et minuit. C'est pas forcément possible de se lever de nuit, mais on peut peut-être deux jours, eh bien, donner cette heure. Alors certains vont prier régulièrement tous les jours à l'adoration à Paray-le-Monial, mais c'est peut-être d'autres auditeurs qui ont l'adoration près de chez eux. Mais dans ce parcours-là, je vous invite à réfléchir à une heure particulière qui peut être votre heure d'heure sainte. Et de dire, bah tiens, moi, dans ma semaine, j'ai décidé, en communion justement dans un corps plus large que moi-même, qui est le corps de l'Église, de vivre une heure d'adoration pour vivre une heure sainte et pour entrer dans cette logique de réparation et d'honorer le cœur de Jésus, comme il le propose à Marguerite Marie. Donc une heure pour être avec Jésus. Alors, je voudrais vous encourager à ce temps-là et reprendre quelques petits points et quelques petites questions là-dessus. Premièrement, nous sommes invités à fixer un temps de prière. Je discutais avec une sœur il n'y a pas longtemps et on discutait sur le fait de dire « Ah mais moi je fixe pas de temps parce que comme ça je peux y aller quand je veux. » De fait, c'est peut-être un premier sacrifice, c'est de se fixer une heure. Et c'est une exigence, mais en même temps c'est une charité. Et en même temps, c'est un bien pour nous-mêmes. Si vous devez fixer une heure de prière dans la journée et que vous savez que vous voulez prier le Seigneur, peut-être que c'est plus simple de vous dire « ça y est, j'ai fixé ma journée, mon heure » que de laisser une variable plus ou moins fixe qui va faire peut-être qu'à 23h, vous dites « ah, finalement, je n'ai pas prié ». Alors que si j'avais calé mon heure de prière et peut-être même en prenant l'exigence d'une heure de prière à l'adoration, eh bien, je pourrais honorer ce moment. Je pensais à ceux qui disent, un autre frère m'a dit, mais moi je viens quand Dieu m'appelle. Alors Dieu m'appelle quand il veut. J'espère qu'il t'a appelé ce mois-ci quand même. Parce que, vous voyez, mais derrière, je me suis dit, pour tous ceux que Dieu appelle mais qui ne se sont pas forcément inscrits, on va peut-être les appeler concrètement. C'est-à-dire, on pourrait très bien faire un groupe de ceux que Dieu appelle, et c'est ceux où il y aura des trous dans le calendrier. Donc on sait que Dieu appelle particulièrement à ces heures-là. Alors on pourrait leur dire, écoute, je crois que Dieu t'appelle samedi matin entre 2h et 4h du matin parce que pour l'instant, il n'y a pas d'adorateur. Et donc, ce serait beau que cette liste des gens disponibles, vous voyez, à toute heure du jour et de la nuit pour se rendre disponible à remplir un créneau et aider un adorateur, par exemple, qui ne peut pas venir. Donc, fixer un temps. Deuxième moment, venir avec d'autres. Vous voyez, peut-être qu'une heure, ce temps d'adoration, c'est difficile de le faire tout seul. Eh bien, je vous invite à le faire avec d'autres, pour plusieurs raisons. D'abord, de prier à plusieurs, c'est plus facile. Je connais des adorateurs, ils viennent à deux couples ensemble. Eh bien, d'être ensemble à prier, eh bien, ça nous aide à vivre ce temps, à vivre cette fidélité. Puis ensuite, c'est un point pratique, c'est peut-être que de temps en temps, on ne peut pas tous venir. J'ai l'assurance que d'autres peuvent être là avec moi. Mais il peut y avoir une autre logique de prier avec d'autres, et ça plutôt pour ceux qui sont expérimentés dans l'adoration, c'est d'en appeler à venir adorer avec vous. Au fond, moi, maintenant, ça y est, j'ai l'habitude de prier, j'ai mon créneau, c'est bien en place. Mais ce n'est pas seulement mon temps avec Jésus. Seigneur, je t'appelle. Qui tu m'invites à appeler pour venir adorer avec moi? Avec qui je peux adorer régulièrement? Qui a du mal à adorer? Je lui dis, viens, mon petit frère, on va prier ensemble. Et puis, tu vas voir si tu arrives à tenir ou pas. Mais t'inquiète pas, moi, je serai là de toute manière. Un dernier point pour vivre avec d'autres, c'est... Justement, nous sommes par exemple en lien avec les auditeurs de Radio Espérance et certains ne peuvent plus venir adorer. Seigneur, je vais adorer pour ceux qui ne peuvent pas adorer. Je vais prendre ce temps-là et je vais peut-être vivre cette heure particulièrement pour une personne que je connais qui ne sait plus venir jusqu'à Saint-Jean ou jusqu'au lieu d'adoration de ma ville et je vais prendre ce temps d'adoration. L'adoration perpétuelle, c'est une démarche de l'Église. Monseigneur Guédon disait dans son livre L'Eucharistie, Soleil de Dieu, Mgr Guédon, qui a été ici à Paray-le-Monial, disait « Jésus reste seul, il médite sur l'agonie, et dit « Jésus reste seul, et ils ne veilleront pas avec lui, Pierre, Jacques et Jean, alors qu'ils sont sans le savoir la première cellule d'église, une église au berceau et une église qui dort. » Voilà, le Seigneur nous invite à prendre conscience que lorsque nous faisons cette adoration, nous sommes l'église, nous ne sommes pas seulement des individus qui vivons une relation avec Dieu, nous sommes membres d'un corps, nous sommes l'épouse du Christ qui vient voir son époux, nous sommes signes de l'église. Et nous sommes invités à rentrer dans cette logique de la prière, voilà, de cette mission ecclésiale. L'adoration perpétuelle, c'est une mission. Et je repensais à la première mission, hein, c'est le premier commandement, hein, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Comment je le concrétise, cet appel à adorer Jésus ? Jésus me dit, demeurez en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne demeurez pas sur la vigne, vous ne porterez pas de fruits. Comment dans toutes nos activités, dans toute notre fécondité, nous prenons conscience de cette place fondamentale de l'adoration, de cette présence d'être avec Jésus. Alors, comme d'habitude, j'ai la grâce d'avoir un enseignement qui commence à être long. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais... Et je voulais vous citer un texte, mais je vous invite à le relire, notamment dans cette mission d'être avec Jésus, un texte de Anne-Françoise Vatter qui avait fait un livre sur l'initiation à la prière et à l'adoration. Et elle explique comment consoler Jésus, entrer dans cette mission de consoler Jésus. Et elle dit, bien, il faut consoler Jésus, c'est d'abord par notre présence dans la prière. Et elle dit, il y a des fois, on est sec, c'est la sécheresse totale, et comment nous allons tenir ? On a un seul désir, c'est de fuir ce temps de prière, ça peut durer des jours, ça peut durer des mois ou des années. On veut prendre nos jambes à nos coups, à notre cou, oui, on n'a qu'un seul coup. Et des fois, elle dit, eh bien, nous sommes tentés d'abandonner la prière. On est tenté de trouver d'autres solutions que la prière. Et Jésus nous supplie de rester, il veut être désiré, recherché pour lui-même. Il nous dit, venez à moi, veillez avec moi, j'ai besoin de vous, j'ai soif de votre amour. Consoler Jésus, ce n'est pas seulement avoir des grands sentiments de compassion envers lui, c'est aussi et surtout de rester avec lui, de lui tenir compagnie, même quand nous ne ressentons rien du tout. Puis elle déploie d'autres moyens. Alors là, dans les déserts et sécheresses, elle reprend l'exemple de Thérèse d'Avila qui invitait ses sœurs à méditer sur la passion de Jésus pour raviver l'amour dans le cœur. Puis après, elle dit on peut consoler Jésus ensuite par la confiance et consoler aussi Jésus en lui présentant le monde entier. Dans la mission de l'adoration perpétuelle, on est là pour être avec Jésus, honorer le premier commandement, entrer dans cette vocation de le consoler. Et puis, c'est le lieu aussi pour nous mettre à l'école. Dans l'adoration, je suis dans l'humilité, je me remets sous le regard de Dieu. Marguerite Marie a une prière toute très belle sur l'adoration. Elle dit « Transformez-moi tout en vie, tout en vous, que je n'ai plus de pouvoir de me séparer un seul moment de vous, que je n'agisse plus que par les mouvements de votre pur amour. » Ma Seigneur, dans l'adoration, humblement, je viens me mettre à ton école. Je viens rentrer dans cette école du corps du Christ livré pour nous. Moi aussi, je veux me livrer. Aide-moi à rentrer dans cette offrande de moi-même et aide-moi avec toi à m'offrir au Père. Un autre aspect que j'aimerais évoquer dans la mission de l'adoration perpétuelle, c'est la puissance de la prière. Cet été, j'ai fait ma retraite et je méditais sur les lettres de saint Paul. Et j'étais marqué par ce verset de l'épître à Timothée. « Viendra un temps où ils auront l'apparence de la piété, mais ils en négligeront la puissance. » Et alors ça m'a interpellé, pas d'abord dans la dimension un peu moralisant, alors est-ce que vous priez ou est-ce que vous n'avez que l'apparence de la prière ? C'est pas ça qui m'a interpellé, c'est de nous rappeler la puissance de la prière. Est-ce que nous prenons conscience de la puissance de la prière ? Et pour moi comme prêtre, vous voyez, des fois on peut se dire, mais est-ce qu'on voit l'Esprit Saint à l'œuvre ? Et je me disais, mais en fait, à chaque fois que j'impose les mains pendant la messe, je demande à l'Esprit Saint de venir sur le pain et le vin et ça devient le corps et le sang de Jésus. Je vois la puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre. L'Eucharistie est le signe et le don de l'Esprit-Saint qui me donne le Fils unique du Père. Donc comment je rentre dans... Je prends conscience de cette puissance de la prière, cette puissance de l'intercession, et que ce n'est pas justement la dernière chose qui peut nous rester à faire. Dernier point que j'aimerais vous dire sur cette mission, eh bien, il me semble que l'adoration perpétuelle est comme un phare dans la ville. Lorsque j'étais à Paris... Quand vous êtes à Paris, quand vous êtes dans la banlieue parisienne, la nuit, vous voyez le phare de la Tour Eiffel. Vous voyez, la Tour Eiffel, il y a un grand phare maintenant qui tourne dans la ville. Et puis, suivant l'endroit où vous êtes, vous voyez une Montmartre qui est illuminée, qui est le point culminant. Vous voyez, et il est bon de se dire, quel que soit l'endroit où vous êtes dans la banlieue parisienne, vous tournez votre regard vers Montmartre et vous dites, là, il y a un adorateur qui prie. Et qui prie pas seulement pour lui-même, hein, qui prie pour la ville, qui prie pour le monde, en fait. Voyez, et nous, lorsque nous sommes à l'adoration, et particulièrement à Paray-le-Monial, nous voyons bien notre mission du cœur de Jésus pour le monde. Voilà, donc demandons cette grâce aussi d'élargir notre regard, d'entrer dans cette vocation, d'offrir cette heure. Marguerite Marie dit, « Tu veux que quand on t'aime, on se livre soi-même aux ardeurs de l'amour pour brûler nuit et jour. » Eh bien, que ces temps d'adoration que nous pourrons prendre puissent être un déploiement de cet amour du Seigneur et de cet amour fraternel des uns pour les autres, que dans l'adoration eucharistique, on rentre dans ce chemin. Alors voilà, dans l'adoration, frères et sœurs, rentrons dans cette joie de retrouver le bien-aimé. On peut souvent... l'heure sainte n'est pas un produit très commercial. Même souvent dans la vie chrétienne, il faut essayer de vendre. Alors ça vaut le coup de venir. Mais en fait, il y a une aridité de l'heure sainte qui est naturelle. C'est dur de fixer une heure, c'est dur d'être fidèle, c'est dur d'avancer. Mais en même temps, Marguerite Marie veut nous faire entrer dans une joie plus grande, qui est la joie non pas de recevoir, mais de donner, de rendre amour pour amour. Bien qu'elle nous aide à rentrer dans cette logique du don et que par cette heure sainte, dès maintenant, nous puissions aussi honorer, aimer le cœur de Jésus et être renouvelés dans la joie de cette mission qu'est la prière. Amen.